be or not to be. Not to be.
On est en 1983. Alors je sais plus trop quand, hein. Je sais juste que c'est un samedi et que j'ai 6 ans. C'est bizarre les souvenirs de quand on a 6 ans, c'est comme un puzzle à qui il manque des pièces. On s'endort dans une voiture et on se réveille le matin dans son lit et on sait pas trop comment. Adulte, il peut arriver la même chose, mais uniquement avec beaucoup d'alcool. Je me souviens que c'était un grand jour parce que ma mère m'avait donné l'autorisation de veiller. J'avais le droit de regarder Champs-Élysées. C'était déjà présenté par Michel Drucker. Michel Drucker, c'est le seul animateur qui est passé du noir au blanc à la couleur et qui, en vieillissant, est en train de repasser au noir et blanc. Pour la première fois en France, ils allaient diffuser le clip d'un chanteur américain nommé Michael Jackson. Le clip a commencé. Michael, veste en cuir rouge, couleur de la voiture de Magnum, se rendait dans un cinéma avec une jeune fille magnifique voir un film d'horreur. Vraisemblablement, le film avait l'air terrifiant car la jeune fille est sortie avant la fin. Ce qui n'est pas très crédible car quand on porte les vêtements qu'il portait dans le clip, franchement, on n'a peur de rien. Il se rendait ensuite dans une forêt brumeuse et pour le petit garçon de 6 ans que j'étais, c'est là que c'est parti en vrille. Parce que Michael s'est d'abord transformé en loup-garou, puis en zombie et s'est mis à chanter et danser. Ma mère m'a demandé si j'avais peur. J'ai répondu non, alors qu'en vérité j'étais terrifié. Mais le goût de l'interdit et le sentiment de voir quelque chose d'exceptionnel supplantaient l'envie de me cacher sous mes draps. J'étais en train de voir quelque chose d'unique qui me marquerait à vie. J'étais en train de découvrir Thriller de Michael Jackson.
France Inter. Blockbuster.
Juste ici, ça va.
Frédéric Siglis.
Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de l'album le plus vendu au monde, Thriller de Michael Jackson. À mes côtés, elle maîtrise le moonwalk comme personne, ce qui explique qu'elle ne regarde jamais où elle va. Hein, ma camarade de jeu Sophie Hoffman. Bonjour Sophie.
Bonjour Frédéric, il y a 2-3 trucs à savoir.
Mais nous avons également la chance d'avoir à nos côtés 2 experts dans leur domaine. Tout d'abord, Daniel Ishbia est écrivain, auteur de Michael Jackson Black or White, mais aussi de Thriller Michael Jackson aux éditions Fedgen. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Avec vous, Daniel, on va essayer de comprendre déjà qui était Michael Jackson, l'artiste, son vécu, sa carrière, ses influences qui l'ont amené à réaliser un album tel que Thriller et en quoi surtout cet album nous parle encore aujourd'hui. Également à nos côtés, Nicole Bacharan est historienne, politologue, spécialiste des États-Unis et auteur du livre Les Noirs Américains aux éditions Perrin. Hein, bonjour Nicole.
Bonjour.
Alors avec vous, on reviendra sur le parcours semé d'embûches, que les artistes afro-américains ont dû emprunter avant d'accéder à la reconnaissance et en quoi Michael Jackson a été le précurseur de tout cela. Mais avant d'aller plus loin, on a besoin de vous poser une question, Sophie et moi. Imaginez qu'on a été cryogénisé depuis 100 ans. On est encore bien conservé, enfin surtout moi. On vient de se réveiller et vous devez nous expliquer à nous néophytes qui est Michael Jackson. On vous écoute.
Donc Michael Jackson est né en 1958 dans une famille où le père était un musicien frustré qui n'a pas réussi et donc qui s'est astreint à projeter cette ambition qu'il avait eue et qu'il n'avait pas pu, sur ses enfants, qui étaient très très doués, il faut dire. Et donc, il les a menés à un train absolument infernal. Michael détestait son père et vraiment estime qu'il lui a volé sa jeunesse. Non seulement, ce qui est vrai, parce que c'était les coups, vraiment les coups de fouet, même par moments. Et quand il rentrait de l'école, il n'allait pas comme les autres enfants jouer dehors. Il était là à répéter, ce qui en a fait des frères Jacksons, des artistes d'une qualité technique extraordinaire, il faut le dire. Ce qui fait qu'en 1970, lorsqu'ils ont percé, ils ont très très vite percé dans un style qu'aux États-Unis on appelait le bubblegum, c'est-à-dire par rapport aux groupes comme les Rolling Stones qui étaient un peu Sex and Drugs, etc. C'était les gentils, quoi. Donc ils ont percé extrêmement fort. Et Michaels, dès sa jeunesse, s'était distingué. Et dans les Jacksons, très très vite, il s'est distingué comme le héros de la fratrie.
Il a intégré le groupe à quel âge ?
Il a intégré très très tôt, je crois vers l'âge de 6 ans. Enfin, très très vite, dès qu'il a commencé à chanter lors d'une fête, les gens étaient absolument sidérés, quoi. Il avait, dès le départ, des dons absolument dingues, que ce soit en chant, en danse, etc.
Et leur mère était témoin de Jéhovah, si je ne m'abuse.
Absolument. Leur mère, heureusement, tempérait la dureté du père. Cette mère, en revanche, il l'a toujours adorée. Elle a toujours pris soin de lui.
D'accord. Et en fait, assez rapidement, Michael a tiré son épingle du jeu.
Tout à fait.
Il s'est imposé presque de fait comme le leader du groupe.
Exactement.
Et tant et si bien qu'il a commencé une carrière solo. C'était à l'âge de 12 ans, je crois.
Enfin, en, la carrière solo, oui, il y a une partie à l'âge de 12 ans où il a fait un single qui s'appelait Ben, mais c'est surtout en fin de 78, début 79, où il a rencontré Quincy Jones sur le tournage du film The Wizard of Oz, enfin le magicien d'Oz, c'est ça. Et donc, Quincy Jones, qui a une réputation extraordinaire, il a joué avec Count Basie, avec Ray Charles, etc. Il accumule les disques d'or et c'est vraiment un monsieur qui est respecté de partout. Et quand Michael lui dit « je cherche un producteur pour mon disque », ça ne lui vient pas à l'esprit que Quincy Jones lui a dit « mais moi, je serais d'accord ». Quincy Jones accepte. Et là, en 79, déjà, ils sortent un album qui s'appelle « Off the Wall », qui va battre tous les records d'un artiste noir en se vendant à 8 millions d'exemplaires.
Oui, et d'ailleurs, c'est aussi la blessure matricielle de Michael Jackson. Parce que le Off the Wall va récupérer une récompense, mais celle du meilleur album de R&B.
R&B.
Catégorie dans laquelle on cotonne tous les artistes afro-américains de l'époque.
C'est ça. En fait, ça se passe en début de l'année 80. Il y a la remise qui s'appelle des Grammy Awards, qui est un petit peu l'équivalent des Oscars dans la musique. Et c'est Billy Joel, enfin bon, qui est un très bon artiste, ou des gens comme les Doobie Brothers, McCartney, Bob Dylan, enfin un petit peu tout le gratin, mais le gratin blanc qui rafle tout. Et lui, il est ulcéré. Et c'est là-dessus qu'il appelle CBS et Walter Yetnikoff, et lui en disant « c'est un scandale, comment ça se fait que je n'ai pas eu plus de récompenses ?» Et il dit « mon prochain album va pulvériser tout, vous verrez. »
Et alors, je ne sais pas si c'est la légende, parce que souvent, sur des grands personnages comme ça, on a tendance à réécrire l'histoire, mais y a une rumeur qui dit que depuis son plus jeune âge, il avait l'ambition d'écrire l'album qui marcherait le plus au monde, que c'était une obsession qu'il avait depuis tout gamin.
C'est-à-dire que c'est ce que lui a écrit dans son autobiographie qui s'appelle Moonwalk. Donc, a priori, si on lui fait confiance, oui.
Vous dites, en tout cas, dans votre livre, Daniel Ishbia, que sur le miroir de la salle de bain, Michael a écrit deux mots afin d'être certain de les voir et revoir chaque matin au réveil et de s'en imprégner inlassablement. 100 millions, tel est le chiffre qu'il ambitionne d'atteindre pour le successeur de Thriller.
Ça, c'était pour Bad, enfin, ouais, c'est ça.
Ouais. Donc, il y a certaines personnes qui se rasent en pensant à devenir président et d'autres qui imaginent devenir le plus grand vendeur de disques au monde, en fait.
Exactement, c'est ça.
D'accord. Et donc, la naissance de Thriller, comment elle est apparue? Est-ce que c'est vraiment une création de Michael Jackson ou plutôt une création de Quincy Jones ou la fusion des deux?
C'est la fusion des deux et puis aussi l'apport d'énormément de musiciens de très haut talent qui ont été sélectionnés pour l'occasion. Je pense aux membres du groupe Toto, où on aura aussi un moment, par exemple, Van Halen qui va venir faire ce solo qui est absolument prodigieux dans Beat It, où il y a une histoire très marrante qu'on pourra peut-être raconter tout à l'heure si vous voulez.
Allez-y, on a le temps.
Eh ben, Van Halen, en fait, c'était le groupe un peu à la mode à l'époque, le groupe de rock un peu métal. Et il y avait une convention dans les membres du groupe, on ne joue pas sur les disques d'autres gens.
Van Halen a reçu... C'est bien d'avoir des principes.
Oui, c'est vrai.
Ça ne se fait
Van
pas.
Halen, donc Edward Van Halen, reçoit cet appel de Quincy Jones. D'abord, il lui raccroche au nez, il peut pas croire que Quincy Jones l'appelle. Et il se dit, bon, je vais faire un petit solo dans une chanson d'un album d'un noir, personne ne le verra.
Oh.
Et donc, il arrive... Il fait ce solo de Beat It qui immédiatement, c'est une seule prise et c'est immédiatement rentré dans l'histoire. C'est un solo incandescent, c'est un solo absolument dingue. Le haut-parleur a pris feu au moment où il jouait. Et puis bon, le petit disque discret qu'il devait faire se retrouve numéro 1 pendant l'été 1983. Enfin, je veux dire, on parle que de Beat It parce que c'est un petit peu là-dessus que Michael Jackson a attrapé le public blanc, parce que le public blanc était surtout à l'époque très très fan de métal.
Oui, Nicole Bacharan.
Oui, d'ailleurs, attraper le public blanc, je trouve que c'est assez frappant dans les premières images du clip de Thriller que j'ai regardé avant de vous retrouver ce matin. Parce que, en fait, le début, je sais pas si vous l'avez dans l'œil, c'est un petit couple de lycéens, en quelque sorte, très propre sur soi et très semblable aux gamins que l'on voit dans American Graffiti. Donc vraiment les images typiques des jeunes blancs des années 50. Là, c'est un couple noir. Et puis ça bascule effectivement dans quelque chose de beaucoup plus délirant, mais qui sera absolument pour tous les publics.
On va développer tout ça juste après une chanson. On va retrouver Daniel Ishbia et Nicole Bacharan pour continuer à parler de Thriller. Mais évidemment, on ne pouvait pas faire l'impasse sur l'album. Donc on retrouve Michael qui nous interprète « It Wanna Be Started Something ».
You gotta be starting something. You gotta be starting something. But you had to get over.
C'était Wanna Be Starting Something de Michael Jackson. Vous êtes sur Blockbuster, on est ravis de vous retrouver.
Frédéric Sigrist.
So far so good.
Blockbuster. Sur France Inter.
Alors nous sommes toujours avec Daniel Ishbia, écrivain et auteur de Michael Jackson, Black or White et Thriller, Michael Jackson aux éditions Fedgen, et également Nicole Bacharan, historienne et politologue, spécialiste des États-Unis, auteur du livre Les Noirs Américains des champs de coton à la Maison Blanche aux éditions Perrin. Alors j'ai expliqué comment j'ai découvert Michael Jackson, mais ce que j'aimerais savoir c'est comment vous, personnellement, vous avez découvert Michael Jackson, non en tant qu'auteur ou historien, mais en tant qu'amateur.
Moi, je peux vous le dire, Nicole c'est Bacharan. À cause de sa manière de danser. Je suis plus, par ma formation, je suis plus danseuse que musicienne, et c'est un danseur extraordinaire. Et il y a une chose qui m'a frappée dans les années 80, quand je l'ai découvert un peu comme tout le monde, c'est qu'il avait toujours ses sockettes blanches. Et à l'époque, à l'Opéra de Paris, en tout cas, les garçons, ils avaient des collants noirs et des sockettes blanches, parce que c'est comme ça qu'on voit le mieux le mouvement du bas de jambe, le mouvement des pieds, et le fameux moonwalk qu'il a développé. C'est encore plus lisible avec ses sockettes blanches. Et il a inventé une manière de bouger qui est incroyable, qui n'existait pas avant, que personne n'a su vraiment reproduire depuis, mais en tout cas,
on disait
hors antenne que tous les enfants continuent à vouloir reproduire aujourd'hui.
C'était une fusion de plusieurs mouvements de danse issus d'horizons divers. Il y avait du hip-hop, il y avait de la danse classique. C'était vraiment aussi, même au niveau de la danse, une sorte de fusion de genre déjà.
Oui, c'est vrai, c'est quelqu'un qui était tout petit, très mince, extrêmement souple et extrêmement précis, avec des mouvements très très secs, très très nets. Et ça, c'était vraiment fascinant.
D'accord. Et vous, Daniel Ishbia, la rencontre vous avez écrit plusieurs livres sur Michael Jackson, donc on imagine assez facilement que vous devez l'aimer un petit peu.
Oui, oui. Passion, hein.
Mais j'aimais énormément de groupes très différents à l'époque. Et puis à l'époque, d'ailleurs, c'est la mode du jazz rock, de courants musicaux très très différents. Il y a eu un moment qui a été crucial, c'était un soir au Palace, parce qu'il y avait la version longue de Billie Jean, et cette basse qui rentre, mais qui est vraiment, comme c'était les versions longues, ça prend son temps, les violons qui arrivent, enfin, il y a un climax qui s'installe, qui est vraiment extraordinaire, et puis, à la fin, ça se répète, cette partie, « The girl is not my son », se répète à l'infini, puisque c'est des versions, et là, je me suis dit, mais c'est un morceau transcendantal qui vient de naître, quoi.
D'accord. Et alors, comment expliquer le succès de Thriller encore aujourd'hui ? C'est l'album le plus vendu au monde, on a l'impression que c'est quelque chose que tout le monde a intégré, mais ça s'est pas fait au hasard. Il y a bien quelque chose dans ce disque qui touche à l'universel. Et donc comment on explique le succès de cet album ?
Bon, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a énormément de chansons qui sont... On a écouté la Wanna Be Started Something, c'est quasi parfait, je veux dire, c'est la perfection. Et il se trouve qu'on a des instrumentistes de très très haute qualité qui savent manier. Ça, c'est quelque chose que Quincy Jones avait supervisé. Quincy Jones a bossé avec des gens comme Count Basie. Count Basie faisait de la musique jazz qui swingait avec des improvisations, mais qui était extrêmement orchestrée. Donc il a ce don de pouvoir superviser des musiciens qui vont être d'une qualité technique extraordinaire, mais à la fois qui vont swinguer, qui vont être très vivants. On retrouve ça dans Michael Jackson. Il y a une qualité de prise de son qui a disparu aujourd'hui parce que ce sont des vrais musiciens qui sont dans le studio, qui souvent jouent live. La clarté, Rod Temperton a extrêmement fait attention à ce qu'il y ait une clarté, que chaque instrument soit tout à fait détaché, ce qui fait un son qu'on ne retrouve plus aujourd'hui parce qu'aujourd'hui il y a trop de machines et les machines ne sont pas vivantes. La vie qui passe dans le liste de Michael Jackson, cette espèce de brillance sonore, puis la qualité de Michael Jackson, ses compositions, enfin, on a le jackpot total.
Oui. Alors, on est allé voir, enfin, on a surtout envoyé Jeanne et Chloé, nos Janet et Latoya Jackson à nous, hein, qui sont allés demander aux gens ce qu'il leur restait dans leur inconscient collectif de Thriller.
Il a fait des chansons assez sympas, donc...
Franchement, ça va rester une grosse légende.
Michael Jackson, ouais, j'ai déjà écouté quand j'étais petit.
Thriller, quand même, le meilleur album et tout, là, donc...
C'est vrai que Michael Jackson, Thriller, c'est des souvenirs d'enfance.
Vraiment, moi, c'est l'album qui a bercé un de mes étés. Je crois que j'ai dû l'écouter en boucle tout l'été.
Car c'est un véritable petit scénario de film fantastique, de film d'épouvante, sur le thème de Thriller de Michael Jackson. Regardez, ça en vaut la peine.
Je me souviens très bien du soir où Michel Drucker a passé le clip de Thriller pour la première fois en France. C'était une sorte d'événement national. J'avais regardé en faisant genre j'ai pas peur et j'avais pas dormi pendant une semaine.
Thriller, Thriller Night,
et après je ne sais plus.
Seul titre ce soir à la une de votre journal, la mort de Michael Jackson.
Ah ouais, c'est discutable après, bon.
Ouais, je pense qu'il est vraiment mort.
Pour certains, il est vivant, pour d'autres, plus pragmatique, il est mort.
Vraiment, quand il est mort, ça m'a filé un choc, c'était vraiment des souvenirs d'enfance. Et l'air de rien au niveau de l'évolution de la société, je crois que c'était quand même la première fois qu'il y avait un noir qui était la superstar mondiale.
Merci à Céline Hila pour la réalisation de ce module et à Jeanne Paravert et Chloé Brassière qui sont allées capter les réactions de la rue sous le regard bienveillant de Marine Beccarelli.
Alors, on voit que Michael Jackson est encore très très présent dans l'esprit de tout le monde. Et on a parlé évidemment de l'innovation musicale que représentait Thriller. Mais on l'a évoqué tout à l'heure avec Nicole Bacharan. On a aussi l'artiste de show, l'artiste live, le danseur. Et également une autre facette qui s'est développée avec Thriller. Et d'ailleurs, certains disent qu'il a inventé le clip. Il y a les vidéos.
Oui.
Alors, est-ce que, Daniel et Jubia, est-ce que vous pouvez nous resituer un petit peu l'innovation qu'ont été les clips de Michael Jackson?
Il n'a pas inventé le clip. Le vidéoclip s'est développé à partir de 1978 à peu près. Je veux dire, les artistes ont découvert donc qu'ils avaient cette deuxième moyen de s'exprimer, pas seulement là. Mais il a vraiment transcendé le phénomène parce que à la fin 83, Thriller a déjà été numéro un partout. Ça chemine déjà vers d'immenses records. Et Michael veut aller plus loin. Il veut frapper les esprits. Et donc, il va voir CBS. Il leur dit, ouais, je veux faire le clip le plus infernal de tous les temps. CBS, alors qu'ils ont les caisses pleines avec les ventes de Thriller, refuse de financer le clip. Il dit, c'est pas grave. Je le finance moi-même de mes propres deniers. Finalement, ça va lui rapporter beaucoup. Et il fait venir John Landis, donc, un cinéaste, et qui imagine ce scénario extraordinaire. Et ils font un film de 14 minutes. Et ça, en revanche, à l'époque, ça s'est jamais vu, qui est scénarisé.
John Landis qui a réalisé Le Loup-Garou,
Le
Loup-Garou de Londres.
Exactement, tout à fait. Oui, c'est vrai, j'aurais dû le préciser. Et donc, c'est là-dessus qu'il va marquer les esprits, parce que à la première projection qui est faite devant Warren Beatty, devant toute une brochette de stars, etc., à un moment, il y a un des acteurs, celui du flic de Beverly Hills, qui se lève et qui dit...
Eddie Murphy.
Oui, c'est ça, Eddie Murphy. Rejoue-nous ça. Bon. Et il le fait avec le... Mais bon, je veux dire, les gens sont complètement sidérés. Et John Landis va énormément rentabiliser ça, parce que la cassette vidéo est en train de naître, et il va vendre le making of, et ça va être la première vidéo cassette.
On a l'extrait du premier passage de Thriller sur les télévisions françaises dans Champs-Élysées, le 3 décembre 1983. On écoute.
Alors vous savez que dans cette émission, depuis que Champs-Élysées existe, on vous a toujours présenté en priorité et en exclusivité les vidéos quand elles en valaient la peine. Vous avez eu Barbara Streisand, vous avez eu déjà Michael Jackson avec Beat It, vous avez eu Rod Stewart, David Bowie. Voici maintenant une partie, je dis bien une partie de cette vidéo, de ce clip que nous avons reçu des États-Unis, car il dure 14 minutes. Alors regardez, c'est Thriller, c'est le titre de l'album de Michael Jackson, et regardez ce que les Américains font. Ils ont imaginé un véritable scénario. Les enfants qui ont vite peur doivent s'écarter du poste, car c'est un véritable petit scénario de film fantastique, de film d'épouvante, sur le thème de Thriller de Michael Jackson.
Moi, j'ai des frissons.
Et moi donc. Mais il y a un doux euphémisme quand même quand il dit aux enfants, éloignez-vous, ça risque un petit peu de vous faire peur. Mais c'était terrifiant. Parce que c'était quand même, là, on voyait un artiste accompli se transformer en monstre à l'écran, à une heure de grande écoute, dans une émission grand public. C'était quand même la manière dont ce clip a été diffusé était absolument exceptionnelle.
Ouais, tout à fait.
Vous avez des souvenirs,
oui,
vous,
mais de... C'est vrai, il y a toute l'imagerie des contes qui font peur, quoi. Il y a la forêt, le petit chaperon rouge, le loup-garou qui hurle à la mort, les zombies qui sortent des tombes, les morts-vivants qui poursuivent la petite gamine qui est perdue dans la forêt. Enfin, c'est vraiment toute l'imagerie des contes, absolument terrifiante pour les enfants, certainement. Mais en même temps, je crois que même les enfants savaient que c'était du show, que c'était de la danse, que c'était de la musique, qu'il fallait pas vraiment avoir peur, il fallait pas vraiment le prendre au sérieux.
Mais la question, c'est aussi... est-ce que Michael Jackson, lui, ne l'a pas trop pris au sérieux? Parce que cette transformation physique qui a été illustrée par Thriller, c'est une transformation physique qu'on a retrouvée dans sa vie. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le Michael Jackson de la fin était plus terrifiant que le Michael Jackson transformé en zombie dans Thriller.
C'est vrai que son évolution humainement, elle est triste. On parlait au début de notre rencontre, du fait qu'il avait voulu vraiment, très fort, arriver au sommet, être le premier, et il a réussi, mais on a l'impression que ça l'a dévoré, et que ce culte un peu de son personnage d'homme, enfant, très ambigu, qui ne peut pas grossir, qui ne peut pas vieillir, et qui, après s'être imposé vraiment en tant qu'artiste noir, pour tous les mômes américains et dans le monde, de toutes les couleurs, vraiment, il y avait des posters de Michael Jackson dans les chambres des gamins américains, quelle que soit leur origine ethnique, et finalement, il veut devenir blanc. Il y a une chose, je trouve, vraiment tragique, au fond.
Et Daniel Ishbia, on sait que Quincy Jones a donc été vraiment partie prenante avec Rod Temperton, voilà, de la réussite de cet album. Mais pourtant, il y a eu une brouille entre les deux, entre Michael Jackson et Quincy Jones à l'issue de la réalisation de Thriller.
C'est-à-dire que la brouille intervient un petit peu plus tard. C'est pas une brouille, non. C'est-à-dire que Michael Jackson, c'est sur l'album Bad qu'elle intervient. Michael Jackson a découvert un instrument à l'époque qui s'appelle le synclavier. Et le synclavier permet d'imiter beaucoup d'instruments. Et donc, il a commencé chez lui à mettre beaucoup de chansons en forme. Et lorsqu'il se retrouve avec Quincy Jones, beaucoup plus tard, en 85-86, pour faire Bad, il arrive en disant, voilà, j'ai la moitié de l'album, j'ai déjà pensé moi-même. Il prend son autonomie. Ça va être bien et pas bien, parce qu'il va réaliser un album vraiment extraordinaire en 92 qui s'appelle donc Dangerous, que beaucoup de fans considèrent peut-être même comme l'un des plus ambitieux. Mais il manque la patte de Quincy Jones, et cette patte, les machines ne remplacent pas Quincy Jones.
Alors, on va jouer ensemble, Daniel Ishbia et Nicole Bacharan, on va lancer notre questionnaire Rain Man, notre questionnaire rempli de chiffres que la France nous envie. Alors, vous écoutez France Inter, il est 11h29 et on avait envie de continuer sur ces chiffres qui en disent tant. Sophie.
Alors, nous allons vous donner quelques chiffres, à vous de nous dire si vous êtes prêts à relever ce défi, on pourra vous donner des indices. Si je vous dis le chiffre 9, à quoi est-ce que ça pourrait correspondre ?
Par rapport à Michael Jackson ?
Par rapport à Michael Jackson. Et par rapport à Thriller.
Non, ils étaient 5, les frères.
Bon, alors, ils étaient 5.
Ils étaient 5, mais il y en avait peut-être 4 qu'on ne connaissait pas.
Ben peut-être, je ne les connais d'ailleurs pas.
Par rapport à l'album, précisément, peut-être. C'est le nombre de pistes qu'il y a sur l'album.
Ah,
il y a 9 pistes.
D'accord.
On continue avec le nombre 30 qui correspond à une date.
Le blanc total, redouté à la
radio. C'est le 30 novembre 1982 que sort l'album Thriller. Ensuite,
le chiffre 750 000 dollars.
Ça, c'est la somme qui a été déboursée. Alors, attendez, je l'ai.
C'est
oui,
ça.
Pour produire
le
Thriller.
Début
c'est
ce bon.
Que exactement. Première bonne réponse de Daniel Ishbia.
Ouf. Qu'est-ce qu'on gagne quand on n'a aucune bonne réponse?
On gagne quand même.
Vous savez, c'est comme à l'école des fans. Personne ne perd.
Voilà. Bon,
personne ne perd. Tout le monde gagne.
Voilà.
C'est, en plus, sincèrement, vous êtes avec nous ce matin. C'est nous qui avons gagné de vous avoir avec nous.
Oh, ça, c'est vrai. C'est bien dit.
Si on vous dit 104 millions.
C'est le nombre d'albums qui est censé avoir vendu Thriller.
Oui, alors pourquoi censé ?
Ouais.
Parce que c'est extrêmement controversé, on n'a pas de chiffres très très précis. Il y a même eu une guerre à la fin du siècle dernier où peut-être un album des Eagles se serait vendu plus, mais aux États-Unis
non,
seulement.
Je n'y crois pas.
Non, je n'y crois pas.
C'est Michael, c'est pas les Eagles. Je les aime bien, ils sont sympathiques, mais c'est pas les Eagles.
Et en Amérique, c'est possible, cela dit.
Un dernier chiffre, peut-être le 8, qui correspondrait à...
Bip,
au nombre
moi,
de récompenses. Voilà, c'est ça. Tic-tac, tic-tac.
Il a dû en avoir plus que ça, je pense.
Donc, c'est les Grammy Awards qu'il a reçus en 84 dans 3 genres différents. Donc, pop, R&B et rock.
Eh bien, vous avez gagné le droit, et les auditeurs également,
oui,
d'écouter une chanson voilà, de Gaël Faye, À trop courir. Allons-y.
De mauvaises herbes insoumises, les lézards les trottoirs. Je ne dors pas, j'ai l'insomnie de ma cité dortoir. Toute ma vie, j'ai rempli mon caddie d'illusions. Moi, je téléphone, je télécommande et je télévision. Silence, on tourne, on vit, on rit, mais ça ressemble à du playback. Mon banquier, c'est James Brown, et tous les mois, c'est payback. Des millions d'Andy Warhol s'impatientent sur le quai de la gare pour un quart d'heure de trajet dans le train de la gloire. On veut être star, à l'instar des étoiles, l'intimité s'étale en prime time, se vend sur PayPal. On intronise le médiocre, plus de caviar que du Big Mac. On prépare une pensée fast-food dans les cuisines de l'Audimat, du pain et des jeux pour calmer les ventres creux, du Xanax dans les meutes, du Prozac pour miséreux. Fermez vos livres s'ils vous apprennent à hésiter. Méfiez-vous, à vouloir vivre, on peut finir par exister. À trop courir après mes rêves, je fais des claquages au cœur. Quand j'y crois plus, je prends la plume pour prendre de la hauteur. À trop courir après mes rêves. À trop courir après mes rêves. À force des courbes se dessinent sous mon regard somnifère. J'ai voulu décourber les chines à courir après mes chimères. J'ai envolé mes rêves dans des avions de papier. Et j'ai voulu la vie de château en m'endormant dans un clapier. La mer est belle, monsieur, j'ai gommé les nuages. Voyez les valises sous mes yeux, elles m'invitent au voyage. Le ciel est beau, madame, j'ai dessiné l'image. Écoutez donc l'oiseau qui chante, enfermé dans sa cage. Je danse, je tourne, petite ballerine sur baril de poudre. La poésie que je brode, c'est de la dentelle à coudre. Quand c'est l'orage dehors, j'en ai plus rien à foudre. J'ai fait des rêves d'un rien, maintenant j'ai rien que mes rêves. Et c'est leur loi des reins qui fait que je dérive loin au large. J'ai vu mon île, tu sais. Touché au but, j'y vais enfin, j'essaie. Des paquets de rimes pour que mon âme affleure. Je veux faire des victimes avec des armes à fleurs. Je ralentis le pas. Je reprends mon souffle, parfois. Et y a mes rêves qui tardent, face au cadran qui tourne. À trop courir après mes rêves, je fais des claquages au cœur. Quand j'y crois plus, je prends la plume pour prendre de la hauteur.
À trop courir après. On écoutait À trop courir de Gaël Faye. Alors on est toujours avec Daniel Ishbia, écrivain et auteur de Michael Jackson, Black or White et Thriller Michael Jackson aux éditions FedGen, mais aussi avec Nicole Bacharan, historienne et politologue, spécialiste des États-Unis, auteur du livre Les Noirs Américains des Champs de Coton à la Maison Blanche aux éditions Perrin. Alors je vous propose qu'on fasse une petite pause de 3 minutes avant de retrouver Michael Jackson et qu'on continue d'explorer l'album Thriller. On se laisse embarquer par Sophie Hoffman qui va une fois de plus nous faire découvrir ce qui se passe cet été en France, les magazines, les livres, les documentaires ou expos sympa à voir ou à regarder. C'est le moment Enfermé dehors avec Sophie Hoffman.
Attention, qui que vous soyez, attention.
Blockbuster.
Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza ?
Sur France Inter.
Alors aujourd'hui, Sophie, vous nous invitez à aller voir l'exposition de la sociolinguiste Jeanne Bordeaux. Ça s'appelle « Langage pictural » et ça se passe à l'Orangerie du Sénat.
Jeanne Bordeaux aime les mots. Elle aime les lire, les écouter, les collectionner, les découper et les coller. Car Jeanne Bordeaux les utilise comme matière première à sa création artistique, faire des tableaux de mots. Et pour arriver à ce résultat, voici son mode de fonctionnement.
J'essaie de lire ce qu'un Français entre 7 et 77 ans lit couramment. Des journaux populaires, variés, et j'ai pris 10 thèmes qui vont de l'économie au monde du travail, à la femme, au monde de la communication qui est devenu important avec les nouvelles technologies. Et j'essaie de regarder les mots qui vont marquer l'époque parce qu'ils sont répétés, ou alors les mots rares qui naissent avec les émotions de l'année.
L'été dernier, par exemple, c'est le mot burkini qui est ressorti plus que les autres, et c'est vrai que les mots passent et s'oublient. Jeanne Bordeaux nous explique pourquoi et comment elle choisit les mots pour en faire des œuvres d'art.
Je vis une histoire d'amour avec le langage depuis que je suis enfant. Donc, dès qu'un mot est particulier, il va tintinabuler à mon oreille. Mon appartement est un kiosque, c'est vraiment un atelier. J'ai des cartons à dessin et je fais un filtrage régulier. Et c'est en octobre que je décide de choisir ce qui marquera l'année, tant sur le plan rationnel que sensible.
Une histoire d'amour avec les mots, oui. Comment ça se passe au niveau des répartitions, des tâches ménagères, etc.
Alors ça, il faudra demander à Jeanne Bordeaux.
On peut l'appeler.
On lui demandera après. En tout cas, ça donne des tableaux avec des mots découpés à partir de journaux ou magazines, puis mis en scène sur une toile colorée. Au spectateur de choisir s'il veut regarder l'œuvre graphique ou lire dans le détail ce qu'il y a écrit dessus. Une chose est sûre, cela marque les mots dans une époque à un instant T.
Qui se souvient il y a quelques années du mot « vous vous êtes là » par exemple ? Ou même du mot quenelle, ces dessins de la pensée collective, ce sont un peu des miroirs de l'époque, comme une fresque qui est un observatoire sémantique et créatif.
Alors forcément, je n'ai pas résisté à l'envie de demander à Jeanne Bordeaux quel était le mot tendance en ce moment.
Alors, je suis très étonnée parce que c'est un mot classique, changement. On sent qu'on est dans un moment de métamorphose du monde. Il y a un mot qui est monté beaucoup en puissance, par exemple, qui était chaos. Et on voit bien qu'au lieu d'aller vers le chaos, on essaie de le maîtriser en se disant de toute façon, un changement est inévitable.
Pour apprécier les mots triés et compilés par thématique et par année, rendez-vous à l'Orangerie du Sénat, rue de Vaugirard, dans le 6e arrondissement de Paris. C'est gratuit et c'est jusqu'à lundi prochain.
Alors bien sûr, évidemment, vu qu'on est prévoyant, toutes les informations sont sur la page de l'émission.
De l'émission même, ouais. Franceinter.fr, Blockbuster, où vous pouvez réagir à l'émission hein, et à cette chronique avec le hashtag BlockEFI.
Alors, on se retrouve avec Daniel Ishbia et Nicole Bacharan pour parler de Michael Jackson et de son fabuleux album Thriller. Mais j'aimerais maintenant qu'on s'intéresse un petit peu au statut de Michael Jackson en tant qu'artiste afro-américain. Parce que la question que je me suis posée en préparant cette émission, c'est pourquoi on a tellement de mal à se souvenir que Michael Jackson, quoi qu'on en pense, est un artiste noir qui a ouvert la voie à tellement d'autres. Nicole Bacharan, s'il vous plaît.
Je crois qu'on a du mal à s'en souvenir parce que lui-même n'est pas resté noir. En fait, c'est quand même un parcours extrêmement, extrêmement bizarre. Mais c'est vrai qu'il a ouvert la voie à d'autres parce que il est devenu vraiment extrêmement populaire dans tous les milieux. C'était une star pour tout le monde. C'était pas le premier artiste noir. Et s'il y a des domaines où les noirs américains ont été très tôt légitimes, c'était l'art, enfin, la musique, la danse et le sport, en gros. Parce que c'était considéré un peu, à la fois comme quelque chose de positif, mais aussi comme quelque chose qui relevait pas de l'intellect, qui relevait pas des études, c'était plutôt dans l'instinct, dans le charnel, dans les dons physiques. C'était aussi la capacité à amuser, à distraire. Et ça, ça remonte très très loin. Hein. Même au temps de l'esclavage, il y avait des scénettes de vie de la plantation qui étaient jouées pendant les fêtes pour distraire à la fois les noirs et les blancs. Il y avait évidemment toute cette musique qui est née du temps de l'esclavage, le gospel, le blues, qui deviendra plus tard, qui donnera naissance aussi au jazz. Mais ça restait cantonné dans un domaine un petit peu annexe. Les noirs n'étaient pas supposés devenir des idoles pour tous les gosses. Ils n'étaient pas non plus supposés exercer le pouvoir sous une forme ou une autre, parce que le pouvoir c'est quand même l'argent à un moment ou un autre, et on ne trouvait pratiquement pas de noirs grands chefs d'entreprise ou grandes stars ayant ses propres shows, ses propres émissions, ses propres networks. Et c'est vrai qu'après Michael Jackson, on voit des gens qui arrivent comme Oprah Winfrey, comme d'autres, qui vraiment sont des puissances au même titre que des gens de n'importe quelle autre couleur. Donc c'est vrai qu'il a ouvert la voie.
Et on a souvent reproché à Michael Jackson d'être devenu une sorte de créature un petit peu transgenre. Voilà, il y a vraiment eu ce côté créature faite de manière artificielle. Mais finalement, est-ce que cette évolution-là, elle n'est pas née du racisme? Parce que comme on l'a vu, le magazine Rolling Stone refusait de mettre un artiste noir en photo.
En 83. C'est quand même assez dingue. On ne peut pas imaginer aujourd'hui qu'en 1983, c'est quoi? Ça fait 25 ans. Il n'y avait pas d'artiste noir qui passait sur la chaîne musicale MTV avant Michael Jackson. Michael Jackson a ouvert. Ce qui s'est passé, c'est que en février 83, Billie Jean devient numéro 1 au hit-parade pendant 7 semaines. Et là, le PDG de CBS appelle que ce soit Rolling Stone et MTV en disant si vous mettez pas Michael Jackson en couverture de Rolling Stone et s'il passe pas sur MTV, je vais clamer partout dans toute l'Amérique que vous êtes les plus gros porcs de racistes qui soient. Et donc, il cède à la pression. Michael Jackson, une fois qu'il est rentré, Prince va pouvoir rentrer. Enfin, il va ouvrir la voie. Les artistes black américains le savent aujourd'hui, ils lui doivent une fière chandelle.
Et d'ailleurs, on a un extrait où on apprend la part de musique noire que l'on peut retrouver chez Michael Jackson.
Ce qui est certain, c'est que la différence entre son dernier album Thriller et son avant-dernier album solo, qui s'appelait Off the Wall, qui s'est vendu au chiffre extraordinaire de 7 millions d'exemplaires pour la musique noire, c'est qu'il a réussi à intégrer dedans, avec l'aide de Quincy Jones, des éléments qui sont nouveaux dans la musique noire en ce moment, qui sont les éléments électroniques, ou qu'on appelle électro-funk, ou qu'on entend dans le rap, et des éléments de toujours, puisque Quincy Jones est bien connu comme étant un très grand producteur qui a des expériences dans la musique de film, dans la musique de jazz.
C'était Christian Perrault pour le journal Rock and Folk. Et en fait, on voit que un peu plus tard, Michael Jackson est devenu une sorte d'icône de la globalisation. C'est-à-dire que il a complètement quitté sa culture afro-américaine d'origine pour arriver, notamment sur l'album Dangerous, je crois, pour Black and White, Black or White, à une sorte de patchwork de plein de nationalités. Il y a d'ailleurs ce clip où on le voit comme ça être remplacé par un visage amérindien, puis asiatique, etc. Des hommes, des femmes. Et est-ce que quelque part, c'est pas devenu une sorte d'artiste, je mets de gros guillemets pour dire ça, mais Benetton?
Oui, on peut dire ça, United Colors. Oui, peut-être, c'est vrai, mais on voit quand même que les barrières ont été longues à tomber, et peut-être que lui-même en a certainement beaucoup souffert, que ça l'a perturbé. Il y a son histoire familiale, il y a son histoire professionnelle, il y a son histoire personnelle, il y a l'évolution de son corps qui a été extrêmement étrange. Donc c'est très difficile de faire la part des choses. Mais quand on voit ce qui s'est passé, par exemple, aux Oscars, il y a 2 ou 3 ans, avec cette grande protestation, parce que vraiment, c'était la cérémonie la plus blanche qu'on ait vue depuis longtemps, on voit bien que ça a été quand même. On parlait du fait que les magazines ne mettaient pas sur leur couverture des artistes noirs, que MTV ne montrait pas d'artistes noirs. C'est la même chose au cinéma. Ça a été vraiment très long. Et je veux dire, aucun pays ne se délivre jamais de son histoire. Hein. Mais les choses évoluent. Les États-Unis ont été fondés sur la liberté et sur l'esclavage. En même temps, au temps d'Obama, on n'avait jamais vu autant de Noirs à la Maison Blanche. Je peux vous assurer qu'en ce moment, il y en a très très peu. Donc il y a aussi des retours en arrière. Oui, on ne va pas toujours vers l'avant.
Oui, parce qu'on dit qu'il a ouvert beaucoup de portes, mais est-ce qu'elles sont pas en train de se refermer? Parce que même pour des couples mixtes, je sais que le premier baiser entre un acteur blanc et une actrice noire a eu lieu dans un épisode de Star Trek, et ça n'avait jamais été fait avant.
Bon, maintenant, heureusement, c'est banal. Mais c'est vrai que les Oscars, j'en reviens aux Oscars, le premier artiste noir qui a un Oscar, c'est Sidney Poitier, Sidney je crois Poitier. Que c'est en 63. Mmh. La première femme, c'est Halle Berry en 2002.
Mmh. C'est, pour À l'ombre de la haine.
Oui, absolument. Et bon, maintenant, heureusement, la vision de couples interraciaux à l'écran est devenue extrêmement, extrêmement banale. Et vous parliez de cet album de Michael Jackson où il change de visage avec toutes sortes de représentations ethniques, en quelque sorte. Et si vous regardez bien une série américaine, un film américain qui veut s'adresser au monde entier, vous avez forcément un latino, un asiatique, un noir, un blanc, une grosse, une maigre, etc. Donc, bon, la diversité, en tout cas, est beaucoup plus visible et finalement beaucoup plus acceptée croit-on, puisque certains, on a vu, ont voté pour revenir vraiment en arrière aux années 50.
Oui, et il y a encore des polémiques, notamment quand on décide de prendre un acteur noir pour jouer un Stormtrooper dans Star Wars, un film où on a quand même l'habitude de voir des extraterrestres et tout ça. Il y a une polémique parce que le Stormtrooper est noir. Quand Hermione Granger dans Harry Potter, pour la pièce de théâtre, on choisit une actrice noire, là aussi, il y a débat. Donc on est encore quelque part dans un système qui n'a pas complètement accepté cette idée d'ouvrir totalement ses portes.
Bien sûr, et d'ailleurs regardez aussi pour la question de l'homosexualité, c'est tout récent que l'on accepte l'idée qu'un artiste qui n'est pas homosexuel puisse jouer un homosexuel par exemple, que ça ne signifie rien de personnel dans sa vie, juste que c'est peut-être un bon acteur.
Et d'ailleurs j'aimerais que vous nous donniez votre avis sur ce qui s'est passé avec Beyoncé qui est quand même la méga star, quelque part, on pourrait dire que c'est une descendante directe de Michael Jackson. Quand elle a pris position concernant les violences policières, on a l'impression que les États-Unis se sont tout d'un coup souvenus qu'on avait affaire à une artiste noire qui avait elle-même des choses à dire. Et que quelque part, en fait, quand un noir réussit, il doit complètement faire oublier sa culture d'origine pour ne pas faire de vagues.
Mais je pense que ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire que dans un certain sens, il ou elle se détache vraiment de ce qui est très typé comme appartenant à un certain groupe, et puis que le succès, la popularité, le fait de voir quelqu'un quasiment tous les jours font qu'on ne voit plus la couleur. Et ça, c'est quand même plutôt sympathique. Je veux dire, Barack Obama était un président noir, c'est devenu un président américain. Il fallait vraiment être super raciste pour se souvenir que peut-être il avait le teint un peu sombre. Et en même temps, Beyoncé, c'est un personnage que moi je trouve sur ce plan-là assez ambigu. Elle a des longs cheveux blonds, elle gomme elle-même au fond ses origines, et puis elle a le droit, je veux dire, voilà, elle a le droit de jouer avec ses cheveux, elle a le droit de jouer avec sa couleur de peau, elle a le droit de jouer avec les tenues qu'elle porte. Il me semble que plus les choses se mêlent et sont peu claires, au fond, mieux c'est. Chacun a le droit ce qu'on aimerait, c'est que ceux qui regardent, ceux qui participent, soient assez neutres dans leur appréciation.
Et que ça ne soit plus un sujet.
Voilà, mais ça l'est encore.
Alors, vous écoutez France Inter, il est 11h49, et on avait envie de tester vos capacités de réactivité au son de Michael Jackson.
Les nôtres, vous voulez
les vôtres.
Mais vraiment, vous en voulez, là. Ah non, ça reste facile. Le principe, en tout cas, est hyper simple. On va vous passer 3 secondes de chansons issues de l'album Thriller. À vous de nous donner le titre.
C'est à Daniel.
'Cause I really feel it's time. See, the girl is mine.
Oh là là, à Daniel, il était sur le taquet. Il a envie de gagner. Hein.
Non, mais c'est bon.
Avec Paul McCartney. Ah,
absolument.
Paul McCartney.
Très belle histoire. Je sais pas si on la raconte.
Ah bon, on peut la raconter.
C'est-à-dire qu'en fait, ils se sont rencontrés un petit peu par hasard. Un jour, McCartney est arrivé. C'était d'abord sur l'album Off the Wall. Il est arrivé avec une chanson qui s'appelait Girlfriend. Il a dit voilà, j'aimerais te la présenter. Et puis bon, Michael Jackson n'avait pas fait, mais quand ils ont bossé sur l'album Off the Wall, Quincy Jones un jour arrive et lui dit « Tiens, McCartney a sorti un album, il y a une chanson dedans que je verrais vraiment super bien pour toi, c'était Girlfriend. » Donc Michael Jackson a enregistré cette chanson de McCartney sur son album et puis ils se sont dit, à l'époque où ils sont en train de faire l'album Thriller, on entend sur toutes les radios, McCartney chante avec Stevie Wonder, Ebony and Ivory, cette chanson magnifique justement qui est d'ailleurs sur la tolérance des couleurs, parce qu'il dit sur mon piano, le blanc et le noir cohabitent, pourquoi dans la vie ce serait pas pareil, quoi. Et là-dessus, Quincy Jones dit, ce serait génial qu'on fasse pareil, que tu fasses un duo avec McCartney. Et c'est extraordinaire pour introduire l'album, parce qu'il faut quand même imaginer que c'est une époque où les artistes noirs, donc effectivement, sont pas ultra populaires dans la musique blanche. On introduit Michael Jackson, le premier single qui va sortir, c'est ce duo avec McCartney où il se dispute
avec
une fille.
Beatles.
Et c'est avec un Beatles, je veux dire, le symbole. Et le single sera numéro 2 au hit parade, quoi. C'est Beat It.
Oui, et alors là, oui, là, ouais, c'est même extrêmement facile, mais heureusement, on l'a reconnu assez vite.
Oui.
Allez, prochain extrait.
Celle-là, alors attends, c'est Baby Mine. Attends. Ah non, c'est the Lady in My Life.
Oh là là.
Il est trop bon.
Il est très fort. Vous devriez écrire un livre sur Michael Jackson parce que j'ai l'impression que vous maîtrisez le sujet.
D'accord.
Il faut y penser. Hein.
Ouais, c'est vrai, c'est une bonne idée. Allez, prochain extrait.
Ah, c'est B. Whitey.
Oh là là, c'est vraiment...
C'est lui qui l'a réalisé, en fait.
Voilà, c'est ça. En fait, vous êtes mis de mèche avec Céline, notre réalisatrice. Allez, peut-être un dernier titre pour vous départager. Alors, on laisse une petite chance à
vous départager. Je pense qu'elle cherche à m'humilier.
Oh, non, chacun son terrain.
Alors, Nicole, sachez-le, il nous a filé un petit billet avant. On lui a donné la réponse. C'est voilà. Elle a encore une pour Nicole.
Et
Daniel Julia.
Je me tais.
Il le dit.
Alors, Nicole est vraiment très fair-play parce que je lui ai donné la réponse et elle a refusé. Voilà. Elle a dit non, je ne mérite pas. Je ne veux pas. C'était bien évidemment.
Billie
Jean. Mais vous avez quand même tous les deux gagné une nouvelle chanson. Hein, c'est Overnight, Parcells et Daft Punk. On écoute.
Excellent.
C'était Overnight par Daft Punk et Parcells. Alors, on est toujours avec Daniel Ishbia, écrivain et auteur de Michael Jackson, Black or White and Thriller, et Michael Jackson aux éditions FedGen, et Nicole Bacharan, historienne et politologue, spécialiste des États-Unis et auteur du livre Les Noirs Américains des Champs de Coton à la Maison Blanche aux éditions Perrin. Alors, la question, parce qu'on approche quand même de la fin de l'émission, que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'il y a des héritiers à Michael Jackson aujourd'hui ? Daniel Gilbert.
Est-ce qu'il a eu des enfants qui chantent ?
Évident. Daft Punk, quelque part, arrive à restituer beaucoup de vitalité dans la musique électro, ce qui est déjà une gageure qui n'est pas évident. mais je vois pas des artistes de ce niveau-là, des artistes du niveau de Madonna, Michael Jackson, Prince, tout ça, en ce moment, je n'en vois pas. C'est un petit peu dommage. C'est peut-être le format de la musique, sa distribution maintenant, qui privilégie les MP3. Donc les chansons plutôt que les albums amènent peut-être moins à réaliser des œuvres.
Et est-ce que Thriller, l'album, pourra voir ses ventes dépasser un jour ou...
Mais elles sont dépassées tous les ans. Ah, dépassées par un autre album.
Oui, par un autre album.
Ça paraît très difficile parce que il y a eu une conjonction. Bon, par exemple, les Beatles, Elvis Presley avaient touché des publics de façon extrêmement forte, qui était le public blanc américain. Michael Jackson a réussi à toucher tous les publics parce que il a fait de la musique très très populaire qui passe en radio, mais aussi qui passe dans les clubs. Et là, l'équation, on peut pas battre, quoi. Je veux dire, il touchait tous les publics et il avait les noirs, les blancs, enfin bon, les...
Bon, bah, le King of the Pop restera le King of the Pop. C'est donc la fin de cette émission. Merci Daniel Ishbia. On rappelle vos ouvrages, Michael Jackson Black or White et Thriller Michael Jackson édition Fedgen. Et merci Nicole Bacharan. Votre livre, vous s'appelle Les Noirs Américains, Les Noirs Américains des Champs de Coton à la Maison Blanche aux éditions Perrin. Quant à nous, on se retrouve demain, Sophie, pour parler de Retour vers le futur.
Nom de Dieu, c'est regarder qui vient d'arriver dans le studio. Là où on va, on n'a pas besoin de route.
Bonjour Dorothée.
Bonjour Dorothée.
J'ai une proposition de réforme pour le ministère de l'Éducation nationale, figurez-vous. Je voudrais qu'on fasse une épreuve de moonwalk au bac.
Ah, moi je suis à fond pour.
Voilà. C'est éliminatoire. C'est éliminatoire.
Coefficient 7.
Voilà. On va peut-être pu avoir une mention.
On parle du bac dans le débat de midi, figurez-vous.
Eh bien, on va écouter ça avec impatience. À tout à l'heure.
Il s'entendait bien jusqu'au jour où j'ai eu cet appel et que Freddy m'a demandé de venir parce qu'il voulait que je le sorte de ce studio. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Et Freddy m'a dit, je travaille avec un lama. Michael emmenait son lama au studio tous les jours et ça dérangeait beaucoup Freddy. Il n'en pouvait plus.